Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Néhémie. Chapitre 4. Alors, dépendant des versions, les références sont un peu décalées. Mais à partir du verset 33, du chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, le récit nous explique concernant toutes les menaces des ennemis contre l'ouvrage de Dieu. Et l'ouvrage de Dieu, c'était la reconstruction des murailles de Jérusalem, qui sont vraiment le signe de la louange envers Dieu, et la restauration des portes de la ville, qui sont le signe du salut de Dieu. Et alors que les travaux progressent, ce passage nous montre comment Néhémie et ceux qui œuvrent avec lui ont su contrecarrer les attaques. Mais l'opposition se manifeste. Elle s'intensifie. Mais finalement, elle sera neutralisée et vaincue. Alors, j'ai lu l'autre jour un proverbe chinois qui dit « À une affaire propice sont présents de multiples diables ». Et c'est vrai que lorsque dans le domaine spirituel, nous œuvrons pour le Seigneur. L'ennemi guette pour trouver moyen de contrecarrer, de nuire. Et en examinant ce passage, nous pouvons discerner les manœuvres, les tactiques habituelles de l'ennemi de nos âmes. D'abord, la nature véritable de cette opposition. Chaque fois que le peuple de Dieu se met à l'œuvre pour Dieu, vient l'opposition. Elle se manifeste en tout premier lieu par des pressions, par des circonstances extérieures, puis devient de plus en plus subtile et souvent provenant de là où on ne s'y attend même pas, de l'intérieur. D'abord, le mépris. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua des Juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « Que font-ils ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et incendiées ?» Tobia, l'ammonite, était à côté de lui et dit, « Qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. » Donc ce premier signe d'opposition vient de l'extérieur et prend la forme de la dérision, du mépris. Les ennemis acharnés du peuple de Dieu les haïssaient d'autant plus qu'eux-mêmes avaient quelques connaissances du vrai Dieu. Sanballat, il était à la tête des forces de la Samarie, où le culte idolâtre n'était pas complètement séparé du culte de l'Éternel. Il y avait un mélange. Et c'est ce qu'on trouvera toujours, le mélange du vrai avec le faux, en matière de religion, et le mélange du vrai et avec le faux est beaucoup plus hostile au témoignage biblique que le simple paganisme. Le monde qui a puisé sa religion dans la Bible, dans les évangiles, et a fait son credo de certaines vérités scripturaires est fréquemment à la tête de cette opposition. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que ceux qui bâtissent la muraille et les portes de la ville de Dieu puissent le faire, parce qu'ils s'opposent à Dieu, à sa volonté. Et l'hostilité commence par la moquerie. Et ça effarouche les timides plus que la haine. C'était l'une des armes de Sanballat. Si vous regardez au verset 19 du chapitre 2, Sanballat, le horonite, Tobia, le serviteur ammonite, et Geshem, l'arabe, l'ayant appris, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et là, ici au chapitre 4, lorsqu'ils apprennent qu'ils rebâtissent la muraille, ils furent très en colère, très mécontent. L'ennemi de nos âmes veut dédaignés, ridiculisés, à travers des instruments humains, en faisant fi de l'impuissance et de la faiblesse du peuple. Quand nous tentons une grande œuvre pour Dieu, l'objectif de Satan est d'empêcher les âmes de venir à Christ, de le reconnaître comme Seigneur et Sauveur. Et donc, il y a des obstacles à cette proclamation. L'ennemi se moque de nous avec des arguments vraisemblables, nous concernant, en disant « Qui es-tu, toi, pour tenter d'une si grande chose ?» Ou alors « Tu n'es qu'un provincial, hein, un peuple inculte. Penses-tu pouvoir conquérir les campus parisiens ou les grandes écoles ?» C'est une belle imagination. Mais merci Seigneur à ceux qui relèvent ce défi et qui vont justement devant ces institutions pour distribuer la parole de Dieu. Et l'ennemi est là pour dire « Réfléchis bien à ce que tu fais. » Mais ce qu'il nous faut nous souvenir en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas ce que les gens disent, mais de nous souvenir de ce que Jésus lui-même a vécu et a reçu de la part des autres. L'ennemi souffle à l'oreille sans cesse pour que nous puissions nous sentir impuissants et faibles. Et c'est vrai, sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais Tobia, l'ammonite, se moquait encore plus en disant que le renard s'élance et il ferait une brèche dans la muraille. Donc, en fait, il dit, peu ne faudrait qu'un renard vienne effleurer la muraille pour qu'elle tout s'écroule. Après le mépris vient la conspiration. Verset 1er, on l'a vu, Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Astodiens furent très en colère en apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Versets 7 et 8. Ils se lièrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Voilà la tactique de coalition, de conspiration. Parce que le peuple a pris à cœur ce travail. Mais ses ennemis se soulèvent. Mais ce n'est pas tout, ils se liguent ensemble. L'opposition n'était pas que pure moquerie, mais elle est devenue imposante, elle est devenue puissante. Et souvent, ceux qui s'opposent à Dieu, à sa volonté, en voyant les tentatives du peuple de Dieu, ils veulent faire tout échouer et se liguent pour empêcher l'œuvre de se faire. Et là, les ennemis mutuels, soudainement, deviennent des alliés dans leur vaine tentative de déterminer, d'anéantir l'œuvre de Dieu. À ce moment-là, le résultat, c'est que ceux qui sont menacés sont découragés et ils perdent la volonté de poursuivre l'ouvrage, de persévérer. C'est parce qu'il y a cette crainte, cette peur, en voyant la force de l'opposition. Tous font la coalition pour empêcher l'ouvrage. Et en fait, si nous nous sommes confrontés à divers événements hostiles qui s'accumulent, cela peut nous rendre craintifs. Et Satan use de cette tactique pour diviser et démolir l'Église. Mais nous nous attachons aux paroles du Seigneur dans ce qui nous est donné. Ne craignez pas l'homme, mais craignez Dieu. Craignez l'Éternel. Et enfin, les ennemis adoptent la tactique de la guerre psychologique. Ils disaient, ils ne seront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux et nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Donc ils envoient ce message continuellement pour décourager les constructeurs, les faire abandonner leur ouvrage. Mais il nous faut bien nous rappeler ce qui a suscité cette opposition. Le cœur était à l'ouvrage. Chacun vis-à-vis de sa demeure, sa maison, nous avons vu dimanche dernier. et se donnant tellement, avec tant de zèle à la reconstruction du muraille, qu'aux yeux des ennemis, il semblait qu'il voulait achever les travaux le premier jour. En fait, il leur a fallu 52 jours. Mais c'est leur zèle, c'est leur état d'esprit qui suscite l'attaque des ennemis. Et disons-le tout de suite, l'ennemi de nos âmes ne se préoccupe pas des inactifs. Il a gagné déjà. Mais ceux qui sont à l'œuvre, zélés pour l'œuvre de Dieu, pour Dieu lui-même, pour l'avancement de son royaume, vous êtes sûr que vous allez avoir des attaques et de l'opposition, sous toutes ses formes. Alors non seulement il y avait le mépris, la conspiration, mais aussi la colère. La raillerie, la moquerie ne sont rien par rapport à ça, la colère qui est là. Ses propos, ses actions ne sont que l'expression de cette colère profonde. Parce que nous l'avons lu, ils furent très en colère et très mécontents. Il le répète au verset 7. Alors quelle est la raison d'être de cette colère, de ce grand mécontentement? Néhémie lui-même ne s'était pas attaqué à eux. Il ne se mêlait pas de leurs affaires. Non, la deuxième partie du verset 7 nous en donne la raison. En apprenant que la réparation des murailles de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Donc la seule raison de leur colère, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Et on est toujours ainsi. Le seul fait qu'une œuvre ou action vienne de Dieu éveille toujours la colère de l'ennemi. Une vie vécue dans la puissance, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ suscite l'opposition, la haine, la colère de ceux qui ont déjà choisi leur camp et dont la vie de péché est interpellée par moyen de contraste. Parce que là où s'effectue une œuvre de grâce dans une vie, en construisant sur le seul fondement, à savoir Christ, afin de lui ressembler, l'opposition haineuse et farouche se manifeste. Elle vise une chose. Elle vise vraiment à décourager. Verset 10. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Cette opposition-là, en comparaison avec l'opposition extérieure, est beaucoup plus sérieuse. À quoi est-ce que Néhémie avait affaire maintenant? Le découragement. Que de fois quand la tâche est difficile, écrasante, que l'opposition est puissante, ne voyons-nous pas ce découragement se produire dans nos vies, dans la vie des assemblées? Et un grand nombre d'entre nous, nous avons éprouvé cette pression. Le fardeau est trop lourd. Que devons-nous faire quand les fardeaux sont lourds? Quelle est l'exhortation de la parole? Déchargez sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Le fardeau est trop lourd, les décombres sont trop nombreux. Il y a trop, on n'y arrivera pas. Et certains, ceux qui raisonnent ainsi, en fait, ne s'étaient pas associés à la prière de Néhémie ou à l'établissement des sentinelles. Parce qu'au lieu de regarder à Dieu, ils regardaient les obstacles, les circonstances et eux-mêmes. Dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul ajoute, « Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. » Mais quelle arme redoutable et puissante de l'ennemi que celle du découragement, qui peut vraiment nous percer le cœur. Mais notons que ce découragement ne survient qu'après l'achèvement de la reconstruction des murailles à mi-hauteur. Et c'est souvent l'étape la plus difficile. C'est à ce moment-là que l'ennemi renouvelle son offensive. Et c'est une guerre psychologique qui s'opère. Et un autre élément fâcheux, verset 11, s'ajoute à ce désarroi. Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser d'ouvrage. Verset 12, or les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir. De tous les lieux d'où vous reviendrez, venez vers nous. De tous les lieux où vous tournerez, en fait, venez ici. Et ils viendront aussi contre nous. Donc, ces autres Juifs qui habitaient près des ennemis viennent avertir les travailleurs sur les murailles. Et ces personnes-là n'avaient sans doute pas de mauvaises intentions, mais ils avaient des relations avec les adversaires. Et ce n'était pas là l'élément qu'il fallait pour fortifier le cœur du peuple. Et que de fois n'ai-je pas entendu, dans des jours troublés, des avis venant de ces sortes de quartiers-là. On vous en veut, l'ennemi puissant, prenez garde. Si vous persistez, ça va être pire, vous provoquerez une attaque générale. Mais ce qui est à remarquer, c'est ici que ces messagers, ces donneurs d'avis, d'alerte, n'avaient aucun remède à proposer. Et augmentaient ainsi les angoisses de ceux qui étaient un peu faible et découragé. Et ce découragement cède donc cède à la crainte. Et la crainte, c'est quoi? La crainte, c'est l'oubli de Dieu. La crainte des hommes, c'est l'oubli de Dieu. Mais la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse, dit la parole. Nous n'avons pas à craindre. Simplement, craindre Dieu. Et bien sûr, il s'agit d'une autre crainte que celle de la peur. Les pessimistes se présentent. Néhémie, c'est sans espoir. Non seulement vous, vous allez périr, mais nous avec, parce qu'on est à côté. Et naturellement, un tel rapport sème toujours de l'inquiétude dans les rangs. Et même les grands, les magistrats, craignent pour leur vie, verset 14. Après avoir tout inspecté, je m'adressais aux nobles, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Et nous voyons qu'une fois de plus, c'est l'homme, le serviteur choisi par Dieu qui se tient à la brèche. N'ayez pas peur d'eux. Alors maintenant, comment toute cette opposition est-elle neutralisée? Est-ce que Néhémie a paniqué? Est-ce qu'il s'est inquiété de la situation? Pas du tout. Notons d'abord ce qu'il fait. Verset 6, cependant, nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. Donc face à la moquerie, face au mépris, face aux menaces, ils ont continué à travailler sans relâche, ayant pris à cœur l'œuvre de Dieu. Focalisés sur ce que Dieu les appelle à faire. Et c'est un service ininterrompu. Et leur persévérance dans cette œuvre est vraiment la réponse appropriée à l'appel de Dieu pour cela. Verset 9, non seulement avait-il à cœur de travailler, ils avaient aussi la volonté, le désir de prier. Nous avons prié notre Dieu. Dans la vie chrétienne, si nous n'avons pas la volonté de prier en tout temps, nous n'aurons pas non plus le cœur disposé à travailler. Si nous négligeons notre vie de prière, si nous disons ben, « le temps me manque, je ferai ça plus tard », qu'est-ce qu'on constate? On devient un peu irritable, on devient un peu critique, on a du mal à supporter le bruit des enfants ou le bruit du voisin à 23h le soir. Avons-nous appris comme les fidèles à Jérusalem à faire face à tout ce qui veut nuire à notre paix intérieure et à l'œuvre que Dieu est en train de faire en nous, en négligeant la prière, ce dialogue avec Dieu? On a un exemple de la puissance que Dieu déploie en réponse à la prière de foi de ses fidèles. Acte 4, 29, devant les menaces de ne plus parler du nom de Jésus par le Sanhédrin, leur prière c'est « Et maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Et quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Oui, qu'avons-nous à faire? De l'opposition, du mépris, des complots, des conspirations. Et versets 4 et 5, Néhémie donc appelle à ce que le Dieu de justice agisse et tombe sur ceux qui ont provoqué ceux qui bâtissent. Écoute, ô notre Dieu, car nous sommes méprisés. Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livrez-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur faute et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Sacrée prière. Nous ne pouvons pas adresser à Dieu une pareille requête parce que notre cri devant lui n'est et ne peut être que celui de la grâce, désormais, en raison de la venue de Christ. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu ressent comme un outrage envers lui l'inimitié du monde contre la famille de la foi. 2 Thessaloniciens 1:6, si du moins c'est une chose juste devant Dieu que de rendre la tribulation à ceux qui vous font subir la tribulation. Donc nous nous en remettons au juste juge pour que lui agisse selon son bon plaisir. D'autre part, ce dont nous sommes certains, c'est que l'opposition de l'ennemi n'empêchera pas l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Il pense pouvoir le faire, mais ça n'arrivera pas. Qui bâtit son Église aujourd'hui? C'est Jésus-Christ, le Seigneur. Et qu'a-t-il dit dans cette déclaration dans Matthieu? Les portes du séjour des morts ne résisteront pas, ne prévaudront point contre elles. L'avancée du royaume de Dieu avancera toujours. Et c'est là qu'est notre force. La première chose, c'est qu'il nous faut à nous la foi qui se confie en Dieu et en Dieu seul. Et l'esprit qui fortifie nos cœurs pour le service, pour l'ouvrage à portée de main. Et c'est la première chose qui est la confiance et la dépendance de lui exprimée dans nos prières. C'est là ce qui fait notre force. Elle est en Dieu et elle nous sera toujours accordée quand nous prenons devant lui cette position de dépendance et d'obéissance. Troisième chose, verset 9, le peuple sous la conduite de Néhémie avait un cœur disposé à travailler, une volonté décidée à prier et finalement les yeux ouverts pour veiller. Nous avons établi une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. conscient du désarroi et de la crainte dans certains cœurs, Néhémie organise la résistance afin de triompher du découragement et de surmonter la crainte qu'inspirent les menaces de l'ennemi. Alors, deux actions. D'abord, se mettre à prier avec confiance, puis prendre une mesure immédiate, c'est-à-dire d'installer la garde jour et nuit. Et ces deux actions-là sont inséparables dans le combat spirituel que nous menons. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Et il nous a enrôlés pour cela, de mener le bon combat. Et dans ce combat spirituel, il faut être sobre et veiller pour prier. Soyez sobre et veillez pour prier, nous dit 1 Pierre, chapitre 4, verset 7. Et être vigilant, c'est être spirituellement ferme. Être sur le qui-vive, sans se laisser intimider par les menaces et les dangers. Et c'est à cette vigilance constante, à cette discipline, que Dieu nous appelle, au lieu de nous laisser aller à l'angoisse et à la crainte. Ensuite, non seulement cela, il faut aussi voir les aspects de cette résistance. D'abord, versets 13 et 14, considérez Dieu. C'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par clan avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardais, je me levais, je dis aux grands, aux magistrats et le reste du peuple, ne le craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Et grâce à toute cette énergie que Néhémie trouve dans sa communion avec le Seigneur, la scène change. Et ceux du peuple, qui n'étaient ici que des travailleurs, deviennent aussi des soldats prêts à repousser l'ennemi s'il y avait un assaut. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi, pour travailler efficacement à l'œuvre de Dieu, dans les jours fâcheux que nous traversons aujourd'hui, il nous faut revêtir ces deux caractères. Il nous faut la persévérance et l'énergie. Et au premier moment, quand l'attaque semble imminente, de prendre les armes. Néhémie le dit, je plaçais le peuple par famille avec leurs épées, leurs piques et leurs arcs, verset 13. Donc tout était prévu, l'épée pour le combat de corps à corps, la pique pour tenir l'ennemi à distance, l'arc pour l'atteindre de loin. Et pour nous, la parole de Dieu comprend à la fois toutes ces armes, dont le but est de combattre pour nos frères et sœurs, pour nos familles, pour nos demeures. Mais rappelez-vous ce qu'il dit, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable. Nous ne devons pas craindre les hommes, et c'est l'exhortation ici, qui ne sont que le souffle dans leurs narines. Tous, nous existons un moment sur la terre et puis nous disparaissons. Nous devons craindre Dieu, lui qui est grand et redoutable. Et cette description préférée de Néhémie pour son Seigneur est mentionnée plusieurs fois. Donc, il fait travailler la moitié du peuple et l'autre moitié était dans un état de guerre pour déjouer les assauts de l'ennemi, pour vaincre la menace avec des lances, des boucliers, des arcs et des cuirasses. Donc pendant le jour, chacun se place à sa position, fait la tâche qui lui est confiée, mais pendant la nuit, on ne sait quand et comment les ennemis feraient leurs assauts, donc le peuple était assez peu nombreux, les décombres étaient considérables. Alors que faire? Néhémie fait avoir recours à Dieu par la prière. Il le réunissait dans un même endroit pour prier d'un commun accord. Il savait qu'ils étaient faibles, peu nombreux, mais Dieu est grand. Et se mirent à prier avec foi que Dieu ferait lui-même, livrait lui-même combat en faveur de son peuple. Alors, Dieu a protégé son peuple de cette menace. Il a anéanti les entreprises des ennemis. Et le verset 20 déclare « Notre Dieu combattra pour nous ». Quand ensuite cette attitude décidée a dissipé vraiment la conspiration de l'ennemi, verset 15 dit que tous retournèrent à la muraille, chacun son travail. Donc, dès ce jour, la moitié des jeunes hommes travaillaient à l'œuvre et la moitié tenaient les piques, les boucliers, les arcs et les cuirasses. Les armes défensives mais offensives également. Les porteurs de fardeaux et ceux qui les chargeaient travaillaient d'une main et tenaient l'arme de l'autre. Et enfin, ceux qui bâtissaient sur la muraille avaient chacun leur épée sainte à leur rein. Pourquoi tous ces détails? Tous ces faits portent une instruction pour nous. Défendre l'œuvre de Dieu contre l'ennemi en certains dangers pressants, c'est le devoir de tous. À d'autres moments, cette attitude excusive pourrait avoir pour résultat un retardement de l'œuvre. Mais l'armure offensive et défensive est alors confiée. Et ceux qui y a de travail, même ceux qui sont tout entiers, ne doivent jamais se désister de leur vigilance. S'ils ne peuvent tenir leur arme d'une main, eh bien qu'ils saignent l'épée à leur rein. Aucun enfant de Dieu ne doit laisser entièrement à d'autres le soin de se servir de la parole. Cette épée a deux tranchants. Les uns peuvent être plus expérimentés, qualifiés que d'autres pour l'appliquer à tout moment et en toutes circonstances. Mais il ne reste pas moins vrai que nous devons tous, chacun, revêtir les armes spirituelles telles qu'Éphésiens 6 nous le rappelle. Tous porter les armes. Alors, c'est vrai que une telle attitude ne peut pas convenir à l'ennemi. Parce que ces manœuvres, ces ruses sont déjouées. Et au moment où les travailleurs saignaient l'épée sur leurs reins, l'ennemi aurait pu dire « Ah ben, confiez vos épées à d'autres, plus qualifiés pour vous pour combattre. Occupez-vous de votre ouvrage, ne cherchez pas à faire deux choses à la fois. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Et le travailleur sur la muraille répond « Non, tout n'ira pas bien. » Si je m'endors par ces paroles, tout ira mal. Laisser le Seigneur agir, c'est vraiment un privilège inappréciable. Mais nous sommes aussi, nous, appelés à combattre avec lui, pour son nom. Quand quelqu'un dit « le Seigneur agira », quand moi, je mets de côté l'épée de l'esprit, la prière et la persévérance, ça c'est courir à la défaite. Mais même cela ne suffit pas. Verset 19, Néhémie dit au chef, « L'ouvrage est grand et nous sommes épars sur la muraille, éloignés l'un de l'autre. Au lieu où vous entendrez le son de la trompette, là rassemblez-vous vers nous, notre Dieu combattra pour nous. » Donc pour être efficace, le travail doit être un travail d'équipe, d'ensemble. Quand l'ennemi se présente, l'opposition est là, on ne doit pas se disperser. Et s'il n'y a pas résistance d'ensemble sur le point qui est attaqué, eh bien l'ennemi va pouvoir pénétrer. L'adversaire profite de la dispersion et de la distraction des enfants de Dieu. Il nous faut chérir les moments de rassemblement du peuple, afin de nous exhorter mutuellement, d'être instruits par Dieu et de marcher dans l'unité et l'harmonie de la foi et dans l'amour. Donc le premier soin, quand il y a une attaque, l'ennemi veut semer la discorde et les divisions. Et si certains sont isolés, eh bien, ce sont des proies faciles. C'est pour ça que cet appel de Dieu est là. Rassemblez-vous vers nous. Et je crois que cela doit retentir encore de tous côtés, aujourd'hui comme au jour de Néhémie. Nous avons un point de ralliement. Quel est ce point de ralliement? C'est Christ. Christ est lui seul. Déjà la trompette a sonné d'une manière retentissante pour être entendue de tous. Hâtons-nous. Ne disons pas « mon ouvrage me suffit ». Non, dit le capitaine de nos âmes, il ne suffit pas car l'ennemi, s'il nous trouve isolés, cherchera à détruire. Le danger est menaçant. Ayons donc des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux assemblées, dit le livre de l'Apocalypse. Il est fort bien de bâtir devant sa maison, mais il y a des intérêts encore plus grands qui réclament notre énergie, notre présence, notre participation en vue de nos frères et sœurs et l'Assemblée du Seigneur. C'est pour cela que la trompette nous rassemble. Mais notre espérance est que bientôt, le combat sera terminé. C'est pour cela que nous prions Maranatha. Viens bientôt, Seigneur Jésus. Et il fera cesser tous ces combats. Et nous rassemblera une dernière fois. Là, on n'ira plus à bâtir, ni à se défendre, mais où nous jouirons en paix et d'un repos éternel. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble.